Radio Campus Paris, 20h, la bouquinerie ouvre ses portes tout de suite.
Tant qu'il y a des pages,
des mots,
des mots.
Et puis tant que ça se lit,
même si ça se lit en diagonale, à la verticale, à tout en bas,
la tête en bas.
Yahoo! Et si ça se lit aux toilettes aussi,
ouais, aussi, ben c'est la bouquinerie. Un mardi sur deux.
Silencieux, il contemplait les vastes étendues de verdure qui l'entouraient avec une profonde tristesse. Loin à l'ouest, il pouvait distinguer le reflet des grandes cascades du tumultueux, dont les flots roulaient à grand fracas le long de ce que les hommes appelaient les canaux des braves. Il pouvait discerner les courts toits de terre cuite de la cité des Corincères, qui marquaient, pour tout voyageur, la fin de son long périple. À l'est, les paisibles flots du pénitent s'écoulaient lentement pour rejoindre le cours d'autres ruisseaux et ainsi former le delta aux 10 doigts qui se jetait dans la mer sans fin. Plus au nord du fleuve, enfin, sur des milliers de kilomètres, s'étendait la majestueuse forêt des Grands Verts. Au milieu de ce paysage, au cœur de cette étendue verdoyante que les hommes nommaient Ibéraine, la vallée du souvenir, il attendait. Lui qui était né sur les cendres mêmes de la mort. Lui qui s'était nourri des restes de l'ennemi comme de ceux du roi des hommes. Avait grandi au fil du temps. Saison après saison, alors que tous ses semblables avaient depuis bien longtemps stoppé leur croissance, lui avait continué de grandir. Année après année, il avait gagné en force, en sagesse. Malgré l'intervention des plus grands noms, des plus grands esprits, personne n'était parvenu à expliquer l'étrange phénomène. Bien qu'il ne s'en soit pas rendu compte, il était devenu le symbole de tout un peuple. Peintres, poètes, dessinateurs, musiciens, sculpteurs, les artistes de toutes les régions du monde se bousculaient pour tenter de capturer, de fixer ne serait-ce qu'une infime partie de son aura. Au sein de toutes les cités, son porté circulait de main en main, comme le plus précieux des trésors. Il n'était pas une auberge, une maison ou même un champ sans son effigie. Les plus belles peintures et sculptures étaient exposées dans les plus somptueux palais de ce monde. Edin Muin, La Calme, Gripierre et même la forteresse de Duin, toutes avaient leur propre version de celui qui était devenu au fil du temps un des symboles de la résistance des hommes. Lui qui avait veillé avec force et vigueur tout au long de ces années se sentait aujourd'hui étrangement faible. Imperceptiblement, ses forces diminuaient de jour en jour. Et bien qu'il soit encore loin l'être le plus puissant de ce monde, une indicible peur s'empara de lui. Non pas une simple peur de celle qui nous réveille au cœur de la nuit après un cauchemar, non. Une peur bien plus profonde, plus sournoise. Une peur qui s'accroche au fondement même de l'identité et reste tapis dans les méandres de l'esprit pour ne plus jamais repartir. Pendant de longues années, il mena contre elle une lutte sans répit. De jour comme de nuit, se moquant bien des saisons qui naissent et qui meurent, elle lui livrait un combat de tous les instants, ne lui laissait aucun répit. Inexorablement, sa volonté se replia sur elle-même avant de céder. Ce n'était pas la mort en elle-même qui l'effrayait, car il l'avait acceptée depuis bien longtemps, non. Ce qu'il faisait trembler au plus profond de lui était bien pire. C'était la certitude de savoir que le monde qui l'entourait, celui dans lequel il avait grandi, serait bientôt balayé dans l'abîme comme la pluie balaye le feu, comme le feu ronge le sol. À mesure que le temps passait, tout autour de lui, il voyait apparaître les signes annonciateurs de la tragédie. Bonsoir à tous et bienvenue. bienvenue donc à la bouquinerie. En guise d'introduction à l'émission, vous entendiez une lecture du prologue de Melianor. Le prologue est pour l'instant le seul extrait qui vous est accessible car le site internet de Melianor a ouvert il y a quelques jours à peine. Mais qu'est-ce que Melianor ? Nous y reviendrons, soyez-en sûrs. Nous pouvons dire que Melianor est une douce contrée, comme vous avez pu l'entendre, au-dessus de laquelle plane pourtant la tragédie. On y perçoit comme l'écho d'un drame lointain. Nous sommes en compagnie de son auteur Julien, que vous connaissez notamment si vous écoutez Accords électriques.
Exactement, bonsoir.
Vous vous retrouvez bras dessus bras dessous avec Simon dans cette émission.
Eh oui, hein, on s'est engagé à faire passer tous les membres de l'équipe dans la bouquinerie.
Voilà. Donc, on y est presque arrivé, hein, d'ailleurs.
Oui, il ne reste plus que Dame du Métal.
C'est ça.
La Dame du Métal ?
Oui.
Voilà. Nous l'attendons fermement.
Mais pour le moment, on est avec Dame du Lac. Là.
Voilà. Mais Vanessa, si tu nous entends, tu seras la prochaine en tout cas.
C'est assez fatal comme...
Bazooka.
Annonce. Non. Oh, Simon, dès le début. Julien, merci d'être parmi
ici,
nous
hein.
Ce soir. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer ce qui t'a poussé à écrire ton monde ?
Comme beaucoup de gens, je pense, de ma génération, j'ai lu pas mal, beaucoup. Notamment, moi, j'ai commencé avec les chairs de poule à l'époque. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont lu ça, et c'est un petit peu ça qui m'a initié à la lecture. Et après, je suis tombé un peu comme tout le monde dans les mondes de Dune, du Seigneur des Anneaux, de Herbert, de Asimov. Et forcément, à force de lire, naturellement, vient l'envie d'écrire derrière. Et j'ai commencé par faire des petits textes quand j'étais adolescent, des petites histoires plus ou moins courtes, plus ou moins absurdes. Et après, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans quelque chose d'un peu plus sérieux et d'un peu plus abouti.
Et donc, tu t'es dirigé vers le genre fantasy ?
Et oui, parce que je suis malheureusement ou heureusement un grand adorateur de Tolkien. Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et quand on tombe dans l'univers de Tolkien, c'est vrai que le monde est tellement vaste et l'univers est tellement... entre guillemets profond et varié, que c'est assez compliqué de s'en sortir. Et entre guillemets, c'est un petit peu pompeux de dire ça, mais c'est un petit peu un hommage à, entre guillemets, d'un point de vue d'un jeune de notre génération à l'heure actuelle, ou tout simplement d'avoir l'envie d'écrire et puis de continuer de transmettre des histoires et puis des émotions.
Et Melianor, donc, au-delà d'être un roman, c'est une forme de transmédia en fait. C'est un site internet. T'as mis le romanesque au cœur des nouvelles technologies en fait.
Le principe de Melianor, qui est un site internet pour l'instant, comme tu l'as dit, qui a ouvert la semaine dernière, c'est tout simplement d'essayer de casser, entre guillemets, même à mon petit niveau, parce que c'est à notre niveau que ça commence aussi. Les standards qu'on peut avoir qui sont actuellement d'écrire un bouquin, de l'envoyer à des maisons d'édition, d'avoir une dizaine de refus pour peut-être un oui hypothétique, c'est de partir du principe mon monde n'est peut-être pas forcément cohérent à l'heure actuelle, il va évoluer, et je propose en même temps que j'écris de commencer à faire découvrir aux autres le monde que j'écris pour avoir des gens qui s'intéressent un petit peu à l'univers, à l'aventure, d'essayer dans la mesure du possible d'avoir une petite communauté pour après avoir éventuellement peut-être un peu plus de poids pour éventuellement publier ou faire quelque chose en fonction de l'histoire.
Mais avec du coup l'autopublication sur internet, tu l'as dit, pas d'éditeur, ça veut dire que tu mènes ta barque quand même tout seul ?
Pour l'instant, tout seul, avec mon camarade de jeu que j'ai en face de moi, parce qu'il m'aide beaucoup dans les lectures, les relectures, les corrections et les dessins. Mais pour l'instant, comme tout travail d'écriture, c'est quand même un travail qui reste assez solitaire. L'idée de base, après toute la consolidation et comment on amène l'histoire, les personnages, ça reste quand même assez solitaire. Après c'est un moyen pour moi aussi de partager un petit peu tout ça avec des gens et puis éventuellement d'avoir des retours sur ce qui peut plaire ou pas.
Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que la démarche de Julien est originale. Enfin, d'une part, parce qu'il ne me semble pas, en tout cas en France, que quelqu'un ait déjà eu cette initiative. Mais bon, je connais peut-être aussi mal le milieu de l'édition ou de l'écriture actuelle. Mais elle relève aussi d'un phénomène qui commence à devenir assez courant, qui s'appelle le transmédia, où justement on va utiliser les différents supports qui sont à notre portée. Autrefois, c'était différents artistes qui allaient traiter d'un même thème mythologique ou légendaire. Là, aujourd'hui, un même auteur ou un groupe d'auteurs peuvent développer sur différents supports un même univers. Alors, parfois pas forcément avec le même succès ou la même réussite, parce que on n'est pas non plus amené à maîtriser tous les supports avec le même talent. Je pense à, c'est pas des livres, mais je pense à un groupe qui s'appelle Noob, qui a développé une web série
qui marche très bien.
Très bien. Après, la qualité est discutable, mais en gros, c'est un univers de joueurs de jeux vidéo, donc c'est très référencé, c'est un peu un truc de niche. Mais ils ont décidé de grossir, et avec leurs petits moyens, ils ont développé un univers, la BD, le roman.
Surtout le côté, enfin, ils jouent aussi beaucoup sur le côté amateur, qui est aussi un peu une de leurs marques de fabrique dans leurs vidéos.
Disons qu'ils en font, ils font de leur faiblesse finalement une de leurs forces. Après, est-ce que ça marche ou pas? Et juste pour terminer là-dessus, ils ont battu le record du plus grand, la plus grande récolte de taux dans le crowdfunding, et ils ont eu beaucoup de, à l'échelle européenne d'ailleurs, l'année dernière, il me semble.
Mais alors, en publiant Melianor sur Internet uniquement, ça veut dire que tu présupposes, tu imagines tes lecteurs comme des gros consommateurs d'Internet ?
L'histoire étant de la se déroulant dans de la fantaisie, le public qui est visé, c'est plus un public, en étant large, de 15 à 35. Donc c'est un public qui, grosso modo, comme moi, a grandi avec les nouvelles technologies et qui est quasiment constamment avec un écran, que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur, ou en tout cas pour faire connaître l'œuvre et après amener au livre. Ça reste quand même aujourd'hui, Internet reste le moyen le plus efficace de loin. Ça, de toute façon.
Et tu parlais tout à l'heure de l'élaboration de tes personnages, des lieux, de l'histoire. Tu le fais d'une façon assez particulière, d'un point de vue narratif, dans le sens où ton site est réparti en différentes rubriques. Il y a l'accueil, le roman, lieu, héros et légende. Comment est-ce que tu gères cette répartition ?
En fait, le but, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment sans parler de l'histoire en elle-même, c'est vraiment d'amener tout l'univers qu'il y a autour pour vraiment faire découvrir un petit peu toute l'histoire de la Terre, des personnages. Et justement, ce découpage en parties permet, au rythme de publication que j'ai d'un article par semaine, de faire un focus sur une ville en particulier et son histoire, sur un poème qui constitue un regroupement de légendes, sur un fleuve, sur un peu tous les éléments.
Il y a quand même une intrigue qui sous-tend le... Melianor en règle générale.
Alors, l'intrigue, on va la ressentir au fur et à mesure des publications. Si en fait l'ordre des publications est fait de telle sorte à ce que, au fur et à mesure des publications, on va se rendre compte qu'il y a au final dans la Terre et puis dans les différents événements, il y a quand même une cohérence. Mais ça va venir avec le temps. Voilà. Je préfère prendre le temps d'amener tout plutôt que de donner à disposition tout sans vraiment d'indication. Voilà, je pense que tout le monde prenne l'habitude de, entre guillemets, de créer un rendez-vous toutes les semaines, d'avoir le rendez-vous, il y a un nouvel article, un nouvel élément.
Et voilà. Où tout le monde se dessine un peu plus chaque monde, voilà, semaine, en fait.
Et où tout le monde, au fur et à mesure de l'avancement, se fait aussi sa propre idée de ce que peut être l'univers, parce que même si moi j'apporte des descriptions et puis un monde, on a tous notre propre imaginaire et notre propre façon de l'imaginer. Et c'est ça aussi qui est intéressant.
Mais c'est ça, c'est pas un peu le paradoxe des littératures de l'imaginaire, en fait, parce que c'est, un genre littéraire dans lequel il y a vraiment un effort de détail dingue. Il est souvent servi par le dessin, la cartographie. Et on rend donc l'univers imaginaire encore plus réel, au moins aussi réel et encore plus complexe que le monde dans lequel on vit, en fait.
C'est l'accumulation de tous ces éléments, des cartes, des descriptions, des poèmes, des ensembles de poèmes qui vont faire une légende, qui permettent au lecteur de totalement s'immerger dedans. Typiquement, si on prend l'exemple actuel de Game of Thrones, c'est totalement ça. C'est la précision des personnages, des familles, des lieux, de l'historique, fait qu'on a presque l'impression que si on prend un avion, qu'on va dans une contrée un peu lointaine, on peut tomber sur un pays comme ça. Et c'est notamment ça qui fait la grande force de Game of Thrones et de succès. C'est vraiment le degré de détail, d'attention, encore plus aux personnages et au nombre de personnages qu'il peut y avoir, qui rend l'ensemble crédible. Et entre guillemets, tout l'univers de la fantasy est basé là-dessus. C'est pas uniquement une histoire avec un début, un milieu, une fin. C'est vraiment tout un univers qui, en tant que lecteur, quand on lit, on a l'impression que tout est cohérent.
Et j'ai repéré sur ton site un petit extrait. Tu cites « Des temps présents et passés, les vivants et les trépassés veillent encore et toujours, sourds aux caprices du ciel et du temps, pour entendre une nouvelle fois leurs histoires, qu'elles soient réelles ou fantasmées, Tout ont été comptés en un murmure avant que le vent n'emporte leurs souvenirs.
J'ai écrit ça, moi.
Ah, c'était ton époque Eminem. Hein.
Ouais, ça doit être ça, ouais.
C'est toi qui l'as écrit ?
C'est alors, tout ce qu'il y a sur le site, je te rassure, c'est moi qui l'ai écrit.
Non, parce qu'il y avait écrit extrait de.
Oui, alors. Donc,
je ne trouvais pas l'auteur, en fait. C'était ma question.
En fait, c'est, ce que je veux faire, c'est qu'au-delà. Dans les publications, je vais publier aussi un certain nombre de poèmes qui me servent, en fait, à créer une espèce de trame mythologique et historique du roman, où, en fait, à travers plein de poèmes comme celui-là, on va pouvoir un peu voir l'histoire, l'historique de la Terre, pour donner justement ce que je disais tout à l'heure, encore plus de corps au récit en lui-même et puis à l'univers qui est tout autour. Je pense que de partir sur des petits poèmes à chaque fois qui expliquent pourquoi est-ce que tel roi est connu, pourquoi est-ce que tel symbole est connu, au final, on le voit aussi dans notre monde actuel, ce qui se transmet le plus, même encore aujourd'hui, c'est la poésie, avec ce côté un petit peu épique. Et j'ai voulu retransmettre ça un petit peu, entre guillemets, à mon niveau. Après, je jugerai, les autres jugeront de la qualité de la chose.
Emiliana Torini à l'instant sur Radio Campus Paris. C'est un morceau que Julien a choisi pour nous, pour illustrer son univers, pour animer de musique cette émission. Pourquoi ce morceau? Pourquoi cette chanteuse?
Bah, c'est un petit peu, les origines de la fantasy, la saga de Peter Jackson, même si il y a beaucoup de contradicteurs au niveau en tout cas de la musique. C'est vraiment un travail exceptionnel de Howard Shore et de tous ceux qui ont participé à l'élaboration de la bande-son. Et c'est vraiment, il suffit juste de le mettre, comme on l'a fait là, en fond sonore, pour juste partir directement en terre du milieu. Et c'est quelque chose qui est vraiment assez rare dans les bandes-son actuelles qu'on peut avoir, qui sont toutes assez un petit peu préformatées. Et c'est aussi le gros succès des films, c'est en grande partie leur bande-son et la qualité... De l'univers qu'ils amènent aussi avec eux. Et c'était pour faire
et la voix, elle est pas sur la bande son?
Alors, la voix n'est pas sur la bande son, mais elle y est sur la version longue.
D'accord.
Des bandes son qui sont disponibles et qui ont été publiées après.
En fait, c'est ce qu'on voit assez fréquemment maintenant dans les films, c'est la musique de fin, du générique de fin. Généralement, c'est le moment où les gens se cassent parce qu'il n'y a plus rien à voir, sauf les gros cinéphiles qui veulent retrouver le nom du chef opérateur de la troisième équipe technique qui était en tournage.
Et le baseball grip. Qui
voilà.
Moi aussi, je reste généralement dans les salles, mais juste surtout pour ce genre de film, parce que c'est hallucinant le nombre de noms qui apparaissent.
Ah, oui, oui, oui.
Quand on voit tous les noms qui ont participé au Seigneur des Anneaux, on se dit qu'on a vachement de chance d'en croiser un dans la rue, tellement ils sont nombreux.
Ouais, mais alors généralement, ils sont tous en Nouvelle-Zélande. Donc, effectivement, si tu es en Nouvelle-Zélande, t'as de la chance pour rencontrer au moins peut-être un cascadeur.
Ouais.
C'était donc Emiliana Torini sur Radio Campus Paris.
Bouquinerie, bouquinée,
bouquinaire,
bouquinale, bouquinaire, bouquineux, bouquineuse, bouquinarial, bouquinairement, bouquinant, bouquin.
Alors, si tu vois l'un de ces chevaux sur les plages brumeuses, le désir te prend de monter sur son dos et tu t'approches pour empoigner sa crinière afin de t'y hisser. Il te laisse faire et une fois que tu y es, tu ne peux plus en redescendre et il t'entraîne dans l'eau froide et silencieuse que trouble à peine la pluie. Il t'y emmène et t'y mange. Imagines-tu qu'une bête te morde et te dévore pendant que tu cherches un souffle qui ne viendra plus? Que de l'eau grise et froide se glisse à chaque respiration alors qu'on se nourrit de tes chairs? C'est pourtant le hideux qui se passe dans ces lacs. Et si certains chevaux ne te rongent pas, pour autant tu restes leur prisonnier et tu ne peux plus descendre de leur échine, hurlant, pleurant, ne mourant pas malgré l'âge, vissé pour l'éternité à cette fourrure humide et puante de ton urine et de ta sueur. On dit que certaines de ces bêtes portent des squelettes par lesquels passe la lumière de la lune, des os blanchis et lavés par les pluies, et que parfois, ces morts bougent encore, lentement comme les dernières feuilles penchées aux arbres en hiver. Ils se nomment Kelpis, je crois. C'est du moins un nom de ces pays-là qui y ressemble. Et voici pourquoi je t'en parle. À cause de l'armure de la salamandre. Ce morceau de fer me fait penser à ces animaux. Comment cette chose pourrait-elle loger un homme? Comment a-t-elle pu se refermer sur lui? On parle de ces deux-là depuis tant d'années qu'ils auraient dû rouiller et mourir 10 fois. Voici ce à quoi je songe. Peut-être que cet homme a fait ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être s'en est-il allé sur ces plages de Galégrie. Peut-être a-t-il trouvé un cheval un peu différent de cela. Un kelpis en forme d'armure qui te force à y monter et ensuite à faire ce qu'il désire. Comprends-tu ce que je veux dire? Les chevaux doivent naître de la chair de leur mère pour devenir kelpis. Tout comme la salamandre a été tirée du ventre d'une femme. Tout comme cette armure a été forgée dans le feu d'une forge. Mais que s'est-il passé pour qu'un guerrier et du métal assemblé deviennent ceci? Pour qu'un cheval et un squelette se changent en épouvantail blanc sous les étoiles? Nous restons face à nous-mêmes devant nos douleurs, nos peurs. Nous les nommons malédictions, mais je crois qu'en voilà une véritable. Derrière la salamandre, il y a une volonté. Quelque chose qui a changé un homme de chair en golem. Peut-être est-il le bras d'un juge ou la force d'une justice que je ne connais pas. Tout cela est possible. Il est lié à la mort et je n'en sais pas plus.
Merci Julien pour la lecture de cet extrait Chien du Home, c'est le nom
exactement.
De ce roman de Justine Niogret.
Niogret, exactement.
Niogret,
qui est une auteure française de fantasy, un petit peu entre guillemets, enfin de la nouvelle génération, qui sont en tête de liste avec notamment Olivier Perru et Pierre Perel, qui sont un petit peu les porte-étendards français de la fantasy et qui font tous des bouquins vraiment excellent que je vous invite à lire et à partager au plus grand nombre en tout cas.
Ils sont accessibles même pour ceux qui ne sont pas forcément des lecteurs, des grands lecteurs de fantasy à la base.
Alors celui-là est peut-être un petit peu compliqué parce que c'est vraiment un monde moyenâgeux, mais les deux autres, notamment Martyr d'Olivier Perru, est vraiment accessible à tout le monde. Et il y a deux tomes qui sont sortis pour l'instant, enfin, vous pouvez y aller et les dévorer sans problème, enfin, c'est vraiment accessible à tout le monde.
Et cet extrait particulièrement, qu'est-ce que tu as voulu, qu'est-ce que t'as voulu nous raconter en choisissant cet extrait ?
C'est un extrait qui, enfin, parmi tous les livres que j'ai lus, m'a toujours marqué pour une raison, enfin, que j'ai toujours un petit peu de mal à identifier, mais je trouve qu'en lui-même, il explique un petit peu bien le principe des mythologies et des histoires en général. De dire que au final tout le monde sait que les plus grands mythes et les grandes mythologies ne sont que des histoires, et pourtant par un phénomène qu'on n'explique pas, ça reste quand même dans l'imaginaire collectif, ça fait toujours trembler même 1000-2000 ans après, pour des raisons qu'on n'arrive pas bien à imaginer, même si au final on sait que au départ c'est peut-être que des histoires, mais il y a un fond de vérité qui s'est ajouté au fil du temps. On peut prendre notamment les Chevaliers de la Table Ronde avec Arthur, où on sait que c'est une mythologie arthurienne, et pourtant il y a toujours des textes, toujours des références qui se font sur le sujet. Et voilà, enfin, pour moi en tout cas, ce passage fait un petit peu écho à tout ça.
Ouais, en fait c'est vraiment une sorte de retour du refoulé, parce que la littérature jusqu'au Moyen-Âge, même à la Renaissance, c'était quelque chose où le mélange entre l'imaginaire et le réel était la barrière entre les deux était très confuse et très vague. Et en fait avec l'essor de la science, de la raison, merci les Lumières, tout ça, et on est revenu à quelque chose où ce monde un peu obscur, un peu ténébreux, un peu étrange, on s'est dit de toute façon ça n'existe pas, donc et on va s'intéresser à des choses intéressantes. Ça va être tout l'essor du roman réaliste français, notamment du 19e, Balzac, Zola, et bizarrement, avec les premières conséquences néfastes de la science. Alors d'une part il y a eu le côté science-fiction qui est allé se dire bon, mais attendez, la science ça peut aussi faire avancer l'humanité dans un bon sens mais dans un mauvais, et puis on a eu ce retour où, mais en même temps la science et les deux guerres mondiales, les machines de mort que sont le communisme, le nazisme et tout ça, et aujourd'hui finalement dans un monde dont on parlait finalement il y a quelques émissions sur le transhumanisme avec Rhinocéros, on est dans ce besoin de retourner, c'est tout à fait post-moderne, de retourner à des valeurs très terrienne, très imaginaire. On est obsédé par nos écrans, la technologie, on veut se réfugier dans nos imaginaires, quitte à en créer des milliers, des alternatives, et finalement Julien n'est qu'un avatar de cette forme de retour en foulée.
De te faire traiter d'avatar là.
Ouais.
Oui, mais c'est une bonne série,
part,
Avatar, en même temps. The Last Airbender.
Non, pas celui-là. S'il te plaît.
Mais oui, mais du coup tu parles de ces mythologies. C'est vrai que là, et tu parlais avant de Moyen-Âge, c'est souvent quand même placé dans des époques très reculées, la fantasy. Si c'est dans des époques modernes, voire futuristes, alors on parle de science-fiction, en fait. C'est plus une question, parce que je m'y connais pas forcément beaucoup dans ce genre de...
Ça dépend, après, au niveau des croisements, je sais pas trop comment on les appelle. Il y a des auteurs qui font un peu des croisements entre des époques qui sont plutôt fantasy et plutôt science-fiction. Je pense notamment à une auteure américaine, je crois, qui s'appelle Naomi Novik, qui avec sa saga Téméraire croise deux époques, parce qu'il y a des dragons sous l'époque de Napoléon.
Oui, il y a beaucoup de séries qui mélangent
beaucoup de séries qui mélangent des époques.
L'âge de la déraison aussi, c'est la fantasy sous l'époque de Louis XIV, en fait, au siècle des Lumières. Justement, il joue sur le côté l'époque des Lumières et puis l'âge de la déraison. Le steampunk aussi, c'est ça.
Mais les genres sont assez connotés entre eux pour que, je pense que ça peut faire bizarre de faire de la fantasy dans le futur. Enfin, le genre reste quand même attaché à des valeurs un petit peu, entre guillemets, passées, un petit peu obscures, qui, quelque part, le justifie en lui-même. Ça peut être un peu compliqué de faire un équivalent du Game of Thrones ou de Harry Potter ou de Eragon dans l'espace, quoique, pourquoi pas. Hein.
20h30 sur Radio Campus Paris, et c'est forcément, il est temps pour Simon de nous raconter ses dernières tribulation cinémato-littéraire. Voilà, je trouve que tribulation, c'est un mot hyper drôle. Qu'est-ce que tu nous adaptes en chronique aujourd'hui, Simon ?
Eh bien, comme on parlait de fantasy, j'aurais tout à fait pu vous embêter pendant les 3 prochaines heures au minimum avec l'adaptation du Seigneur des Anneaux, avec l'adaptation complètement foirée d'Eragon, avec l'adaptation d'Harry Potter, oui. Avec l'adaptation de Game of Thrones et bien d'autres. On a d'ailleurs même parlé d'Eric of Melniboné plus tôt. Mais en fait, ce soir, on revient avec du polar parce que j'avais bien accroché avec nos amis du Poulpe et des éditions Baleine. Donc ce soir, on va remettre les couples en question avec l'excellente adaptation du roman Gone Girl, sorti justement le mois dernier en DVD. Mais avant de jouer les briseurs de ménage ce soir, j'aimerais juste commencer cette chronique en précisant que oui, le film de David Fincher, Gone Girl, est bien l'adaptation d'un roman et que d'ailleurs ce n'est pas le seul de sa filmographie, puisque Fight Club, L'étrange histoire de Benjamin Button ou encore Millennium sont des adaptations de romans qui sont devenus cultes ou qui l'étaient déjà avant. Mais bon, si c'était nécessaire, voilà encore un exemple d'adaptation que les spectateurs préfèrent ignorer, parce que ce sont des incultes, et qui préfèrent généralement crier au génie, en l'occurrence du réalisateur le plus hype du cinéma avec Christopher Nolan, réalisateur certes talentueux mais qui n'a fait que transposer une histoire à la base déjà géniale au cinéma. Bref, tout ça pour dire qu'on parlait la dernière fois d'un autre polar, le Poulpe, et que ça tombe bien puisque Gone Girl est lui-même un polar.
Mais je vois pas le rapport.
Ah mais si, justement, parce que je disais à propos du Poulpe que le film était l'exemple parfait de l'adaptation à laquelle contribuent les auteurs. Et donc, si vous m'avez bien suivi, surtout Anna, vous aurez compris que Gone Girl est l'exemple quant à lui parfait de ces adaptations de romans complètement inconnus, en tout cas en France, et dont le succès relève surtout de la collaboration étroite du réalisateur avec l'écrivain de l'œuvre mère au scénario, et en l'occurrence il s'agit de la romancière américaine Gillian Flynn, une collaboration qui, je le souligne, a été recommencée par 6 prix.
Mais dis-nous de quoi ça parle ?
Alors, je vais essayer de résumer l'intrigue aux auditeurs qui n'auraient pas vu le film sans trop le déflorer. Humour. Nick June est un mec, tout ce qu'il y a de plus banane, marié à une femme mignonne comme tout qui s'appelle Amy. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, Amy disparaît. Tout porte à croire qu'elle a été enlevée. On commence alors une enquête policière que l'on suit du point de vue de Nick, jusqu'à ce que les indices s'accumulent et tendent à l'accuser de la disparition de sa femme, en gros Nick est niqué. Or, on découvre rapidement que dans cette histoire, toutes les apparences sont trompeuses. D'ailleurs, les éditeurs français ne s'y sont pas trompés en renommant Gone Girl les apparences. Et le titre offre une clé de lecture au roman et donc au film qui s'éloigne, vous allez le voir, du simple thriller pour développer une réflexion particulièrement cynique sur le mariage, si ce n'est la vie de couple en général.
Alors le roman et le film, c'est pareil ou c'est pas pareil ?
À un point absolument terrifiant, et pour cela il faut vraiment souligner le talent de Gillian Flynn qui nous balade dans tous les sens au cours du récit, une caractéristique que le film exploite à fond en nous faisant suivre différentes pistes. Construit sur la même division en 3 parties et 2 temporalités qui finissent par se rejoindre, d'abord le garçon perd la fille, à la fois physiquement mais aussi métaphoriquement, en fait il perd la fille qu'il croyait avoir aimé épouser, puis le garçon rencontre la fille, celle qu'il a véritablement aimée, autrement dit une grosse salope manipulatrice et psychopathe, et encore je suis poli, et enfin le garçon retrouve la fille qui joue à la fois sur les retrouvailles physiques, merde je spoil, et la reformation de 2 images sociales. Bref, Gone Girl alterne la focalisation entre les chapitres de Nick et ceux d'Amy, créant ainsi un véritable jeu de miroir trompeur entre les personnalités des héros, contraints d'agir jusqu'au pire en fonction de l'image que l'on se fait d'eux ou qu'ils se sentent obligés de donner, auprès de leurs conjoints, de leur famille, des amis comme du reste de la société, ce qui est le cas dans cette disparition très suspecte, place en première ligne la police et les médias. Comme dans le roman, le film alterne discussions creuses ou allusives et silences qui en disent long, échafaudant un véritable labyrinthe de non-dits, d'actes manqués, de lapsus et de ces petits mensonges avoués ou par omission constitutifs de toute relation amoureuse, enfin, du moins selon Fincher et Flynn. Au fil de l'enquête, on plonge ainsi profondément dans la psyché masculine et féminine jusqu'à en extraire ces horribles petits défauts qu'on aimerait tant cacher à l'autre. Rancœur, lâcheté, tromperie, compromission, mesquinerie, violence. Ici, les moindres détails de la vie quotidienne prennent une importance majeure dans l'enquête et la moindre erreur, le moindre oubli, la moindre faiblesse, d'ailleurs comme celle d'une mauvaise prononciation, devient très vite suspicieux. Là où le film est très brillant, c'est qu'il transpose dans un monde poisseux mais éblouissant et crépusculaire avec une BO anxiogène qu'on entend qui est signée par Trent Reznor, un ancien de Nine Inch Nails et Atticus Ross, l'esprit pas malsain mais vraiment très noir du roman. Les stratégies psychologiques des personnages deviennent véritablement dans le film des enjeux d'image au sens phénoménologique, ah ouais, c'est très psycho hein, ce film, entre ce que l'on est et ce que l'on montre aux autres, l'image que l'on veut donner de soi, celle de la perfection forcément, et celle que l'on donne vraiment, qui ne coïncide généralement pas avec ce que l'on attend de nous, comme ce réflexe stupide, canique de sourire quand il est gêné, et c'est surtout emmerdant quand on doit poser devant la photo de sa femme disparue. Tout se réduit alors à un univers binaire d'intérieur et d'extérieur, balisé par les commissariats et les maisons, bien sûr, mais aussi la télévision, selon qu'on est filmé ou qu'on la regarde, et puis surtout notre propre corps, cette matière individuelle imperméable aux pensées de l'autre. Le premier plan du film est à ce point une vue assez explicite, on voit en gros plan la tête d'Amy, et puis la voix off de Nick qui s'interroge sur ce qu'il y a dans le crâne de sa femme. Après tout, le film que l'on voit est-il la réalité ou le fruit de l'imagination des personnages ? Ou bien est-ce la recréation même de la réalité, comme le journal intime d'Amy retrouvé après sa disparition.
Ça c'est Inception, tu confonds là.
Ouais, mais justement, il y a un côté très vertigineux dans le film. Et le film ne serait toutefois pas une réussite sans la performance de ses acteurs. Ben Affleck, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, est absolument impeccable. Il incarne à la perfection Annick Ballot, Fallot, mais au final victime d'une Amy sublime et glaciale. Un rôle qui a d'ailleurs valu un Oscar et un Golden Globe à Rosamund Pike. Les seconds rôles sont également très bons. On retrouve, j'en parlais dans Starship Troopers, cette fois-ci Neil Patrick Harris qui joue un ancien amant d'Amy aussi tard qu'elle, ce que lui ça va lui rester en travers de la gorge si je puis dire.
Mais est-ce que c'est absolument, parfaitement, indéniablement, exactement
bon,
pareil?
Alors, si on veut être chiant, si on veut tatillonner, il y a deux détails qui distinguent quand même le film du roman. Outre le raccourci inévitable, les deux scènes très choquantes du film, notamment l'une où Amy se donne un coup de marteau dans la gueule, sont complètement imaginées par Fincher et complètement gratuites aussi. Puis la seconde, qui est une scène de trucidage d'Amy qui tue son ancien amant. Merde, je spoil encore. La seconde, elle n'est pas du tout décrite comme telle dans le roman, mais juste évoquée. Alors je trouve que Fincher sacrifie là quand même à quelques effets un peu appuyés, mais bon, qui visent à accentuer le contraste entre l'apparence tout à fait charmante et sympathique d'Amy et puis en fait sa nature complètement perverse et violente. Mais bon, c'est vraiment des détails.
Donc la morale, c'est fais gaffe à ta meuf.
Ouais, au final on se demande surtout si c'est pas juste une histoire d'amour un peu plus passionnelle que les autres, où les petites brouilles de couple prennent ici des proportions démesurées, lassitude, jalousie, incompréhension, engagement, besoin de reconnaissance, désir d'enfant, etc. Chacun attend en permanence des choses de l'autre sans le formuler clairement et s'efforce de se conformer à ses attentes pour lui faire plaisir. Mais jusqu'à quel point ? D'ailleurs le film s'ouvre et se ferme sur le même plan avec la tête d'Amy et sur la même question que beaucoup de couples ont dû se poser au cours de leurs questions et que je pose à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Mais merde, qu'est-ce qui nous a arrivé pour qu'on en vienne à se mentir l'un l'autre comme ça ? Gone Girl, au fond, c'est un peu le mythe de Narcisse en couple avec Echo. Et pour terminer, un autre film tiré d'un roman de Gillian Flynn vient de sortir, c'est Dark Places, qui s'appelle Les Lieux Sombres, et c'est réalisé par Gilles Paquet-Brenner. Alors, vous ne le connaissez pas comme ça, mais si je vous dis que c'est réalisateur de Gomez et Tavares, vous allez vous dire, mon Dieu, mais il a fait ça. Effectivement, et le film est très bien, et pour l'anecdote, en fait, Charlize Theron joue le rôle clé, et elle devait jouer à l'origine le personnage d'Amy dans Gone Girl.
Thank you.
Merci beaucoup Simon pour ta chronique.
De rien, j'espère que ça vous a donné envie de voir le film.
Bah oui, et comme toujours, c'est ce que je te disais, dès qu'il y a une fille qui se tape la tête avec un marteau, moi j'y vais direct. On écoutait juste avant un extrait de la BO, le morceau s'appelle Appearances.
Appearances, oui, donc les apparences.
Merci de me reprendre. bah oui.
Effectivement, une très très bonne BO signée donc Trent Reznor de Nine Inch Nails et Atticus Ross.
Mais qu'est-ce qu'on entend là ?
Mais qu'est-ce que ce bruit-là, dites donc ?
Oh, des pieds poilus !
Oh, mon Dieu ! Mais ne serait-il pas des hobbits ?
C'est toi, Julien, qui nous a envoyé ce morceau. C'est la BO du Seigneur des Anneaux,
exactement,
j'ai l'impression.
De la première partie, la communauté des Anneaux.
Oui, excuse-moi.
Et qui est la comté, hein, on l'aura tous reconnu.
The Shire.
Et pas le fromage.
Et ça suit bien la chronique de Simon. On reste dans le cinéma. T'as été très influencé par Tolkien. Est-ce que le cinéma, ça a aussi beaucoup compté dans la construction de ton imaginaire? Elle n'était pas prévue.
Le cinéma en tant que tel, pas. Enfin, dans le livre que j'écris pour l'instant, non. Après, dans tout l'environnement, on est forcément influencé par toutes les œuvres qu'on voit. Moi j'ai la chance d'être un grand cinéphile et d'aller souvent au cinéma, et c'est vrai que je pense que c'est plutôt inconscient. On est en fonction des histoires et des films qu'on voit et de ce que ça fait appel dans notre imaginaire, on est plus ou moins influencé. Et moi, un des films qui m'a le plus marqué en tout cas au cinéma, c'est Into the Wild de Sean Penn, qui est je pense une des meilleures histoires qui a été filmée et aussi racontée, parce qu'au départ c'est un livre aussi, donc c'est qu'une adaptation.
Et puis c'est une vie alors.
Et c'est une vie, au départ, qui a vraiment été vécue. Et je trouve
est
que
morte.
Est morte aussi.
Oh, merde.
Faut pas le dire.
Je crois qu'on devrait mettre des jingles ou des alertes anti-spoil dès que tu parles, parce que t'es vraiment catastrophique.
Mais il va y en avoir toutes les deux secondes sinon. Après.
Et pour en revenir à la littérature fantasy, quelle place est-ce qu'elle occupe sur la scène littéraire ? Parce qu'on voit souvent que les salons, les meetings autour du sujet, ça draine énormément de monde. Mais pourtant, c'est pas forcément ce dont on entend le plus parler.
Ça reste, l'essor de la fantasy a commencé un petit peu avant Le Seigneur des Anneaux, mais surtout avec les films. Aussi et surtout avec, entre guillemets, la nouvelle génération, avec la saga d'Harry Potter qui a amené vraiment beaucoup de lecteurs. Mais c'est vrai que dans l'univers, entre guillemets, littéraire et encore plus français, ça reste vraiment quelque chose qui reste à la marge. C'est un peu, c'est toujours, à l'heure actuelle, quelque chose qui est assez geek. Enfin, c'est vraiment de la culture geek qui, même si elle se développe, reste quand même largement marginale par rapport à de la littérature entre guillemets plus sérieuse, avec des prix Goncourt qu'on peut avoir en France et toute la palanquée de prix qu'on peut avoir. Nous on s'en rend peut-être un peu plus compte entre guillemets, la génération de 15-30, parce qu'on est vraiment en plein dedans, on a grandi avec et on y fait peut-être plus attention. Mais je pense que dans la société en tant que telle, même si tout ce qui est fantasy, vampire avec la saga Twilight qui est venue il n'y a pas longtemps, ça reste
peut-être pas censé donner cet exemple.
Non, ça marche par vague. On a eu la fantasy, on a eu les vampires avec Twilight, là en ce moment on est dans les zombies avec The Walking Dead et toute la mythologie qu'il peut y avoir autour. Enfin, contrairement à la littérature entre guillemets classique, c'est vraiment par vague.
Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est toujours des thèmes en fait classiques, mythologiques, qui sont repris et qui remontent sur le devant de la scène.
Parce qu'au final,
c'est
ça qui marche depuis la nuit des temps. Si on lit toujours l'Odyssée, c'est bien pour des raisons. Si on s'intéresse toujours,
c'est pour les vampires.
Aussi. Mais voilà, les mythologies sont à la base de toutes nos cultures, que ce soit la culture, mythologie grecque, égyptienne, nordique. Au final, c'est ce qui fait le fondement de nos sociétés, entre guillemets, occidentales. Et qu'on le veuille ou pas, on est bercé de par notre culture, par ça. Et inconsciemment ou consciemment, quelque part, on répète un peu le schéma avec des nouvelles références, des nouvelles valeurs. Mais au final, le fond, entre guillemets, mythologique et de ce qu'on veut apporter reste là.
Alors, qu'est-ce qui se passerait si on inventait un nouveau monstre qui deviendrait aussi, viral que peuvent l'être les vampires, soudain, tout le monde en parle. Qu'est-ce que tu inventerais comme voilà.
Moi, je sais pas surtout si ça marcherait, parce qu'on a... On a la chance ou la malchance, ça dépend comment on le prend, d'être dans une époque où tout va très vite et trop vite. Et une mythologie marche aussi parce que ça a commencé à une époque où on n'avait pas, entre guillemets, le degré scientifique qu'on peut avoir, où le côté un petit peu bête, imaginaire, mythique pouvait fonctionner. Si maintenant on essaye de créer une mythologie ou un mythe sur une espèce de dragon, ou enfin peu importe la créature.
Ça existe déjà en fait, le mythe du dragon, ce serait vraiment.
Mais c'est que des réactualisations. On est dans une période de gros recyclage aussi. Hein. Le mythe du vampire, il était à la mode au 19e, il revient à la mode maintenant.
C'est ça, c'est cyclique.
Il y a que le zombie en soi qui est vraiment une création très contemporaine.
Et encore, je pense que la peur des morts qui reviennent, ça existe depuis vraiment la nuit des temps.
Oui, oui, mais le zombie tel que nous, on le pense aujourd'hui. Aujourd'hui, cette espèce de maladie qui est transmissible, qui peut faire écho au sida, qui rend les hommes dans un état végétatif, mais en même temps cannibale, ça date en fait
des
années 60.
Je crois
pas que
le sida, non, pas dans les symptômes.
Ah,
le
pas
cannibalisme,
encore.
Ça peut venir, ça peut être la nouvelle créature.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des traitements de ces monstres-là, le vampire, le zombie, avec qui sont des métaphores des mots actuels. Hein. Forcément, le zombie, il relève bien de ce côté viral, justement, que connaît notre société, où finalement une information, maintenant, elle est instantanément à l'autre bout du monde dès qu'elle a lieu. Donc.
Et c'est aussi assez courant, si ce n'est fondateur de la littérature fantasy, d'avoir des petites lignes, de lire entre les lignes et d'avoir toujours une histoire qui se dessine en filigrane, et notamment chez Tolkien. Ça a été vraiment très sondé comme texte, en fait.
Tolkien, surtout avec Le Seigneur des Anneaux, Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux. Quelque part, il ne voulait pas tellement l'écrire. C'était un peu un prétexte pour amener les gens à son monde qui est l'univers de la Terre du Milieu avec le Silmarillion, l'histoire des dieux, la création du monde. Pour Tolkien, au final, le Silmarillion, ça reste qu'une histoire parmi tant d'autres. Et comme tu dis, ça reste que, entre guillemets, dans son monde à lui qui est gigantesque, ça reste qu'un paragraphe, une ligne dans un univers qui est juste immense.
À préciser que le Silmarillion, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a la trilogie fondatrice du Seigneur des Anneaux. Il y a Bilbo le Hobbit, du coup, qui est en fait ce petit livre pour enfants qui a été écrit avant. Et Silmarillion, en fait, ça fait partie de espèce de grosse mythologie qui raconte vraiment les origines du monde, la cosmogonie, la Terre du Milieu, et qui va jusqu'au début qui est un prélude au Hobbit, qui devient lui-même un prélude au Seigneur des Anneaux. Et c'est un truc qui a été inachevé, hein, mais c'est les bases de l'univers de la Terre du Milieu.
bouquinerie. Bouquiner.
Bouquiner.
Bouquiner. Bouquiner. Bouquiner. Bouquiner. Bouquiner. Bouquiner. Bouquineuse.
Bouquinerial.
Bouquinerial.
Bouquin. Bouquin. Bouquin.
Bouquin.
Bouquin. Bouquin. Bouquin.
À l'instant, dans vos oreilles, le morceau fort à propos, Fantasy, du musicien dont le pseudonyme est Dai. C'est un musicien français. L'heure tourne et nous allons tout de suite écouter Yacine, qui n'est certes pas avec nous ce soir, non, mais il est très loin et il nous a enregistré quelques mots depuis sa planète pour nous parler de l'album Grotesque d'Olivier Texier.
Bouquinerie,
bouquiner.
Bouquiner, bouquinal, bouquineux, bouquineuse, bouquinarial, bouquinairement, bouquinant, bouquin,
alors cette semaine je vous parle donc de Olivier Texier, un bouquin qui s'appelle Grotesque 2, qui est en fait le 3, mais bon, on va pas rentrer dans ce genre de détails parce que sinon on va se perdre. Donc pourquoi Olivier Texier ? Eh ben, Olivier Texier, c'est un dessinateur qu'on voit un petit peu partout à l'heure actuelle. Il est dans Psychopathe, dans Flux Glacial, dans Nicole et Francky, dans Professeur Cyclope. Donc vous avez déjà probablement dû voir ses BD, quoi. Donc ses BD, c'est une sorte de dessin réaliste et c'est de, une sorte d'humour complètement absurde. Et il faut dire que moi, je trouve que c'est une des personnes actuellement les plus drôles. Ses BD sont toujours assez étonnantes. Il développe une sorte d'univers vraiment étrange. C'est toujours basé sur des relations humaines assez malsaines, mais c'est toujours, toujours très marrant parce que c'est le monde noir, hein. Il faut bien se dire ça. Par exemple, ce qui me plaît beaucoup dans Grotesque, parce qu'il faut savoir qu'il fait différentes choses, mais sa spécialité, ça reste le strip. Donc le strip, hein, c'est cette façon de faire de la BD en quelques cases, 3 ou 4. Et on peut dire que lui, c'est carrément un maître. Voilà, j'utilise le mot maître parce que c'est pas un mot que j'utiliserais comme ça facilement. Mais lui, vraiment, il a l'art de maîtriser le tempo du strip, quoi. C'est-à-dire, un strip, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire parce qu'il faut un début, un milieu, une fin en quelques cases. Et arriver à, comme ça, à développer un univers en très peu de temps, tout de suite, il faut rentrer dans le vif du sujet. Donc lui, c'est quelqu'un qui, tout de suite, il crée une ambiance, quoi. Il crée une situation de départ. Dès la première case, on est complètement plongé dans une ambiance super bizarre et on ne sait pas du tout où ça va aller. C'est-à-dire que même en voyant la première case, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, ni dans la quatrième. C'est vraiment un truc qui est marquant chez lui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment ça va finir. C'est impossible de prévoir si ça va finir mal, si ça va finir bien. Parce qu'il y a aussi des trucs qui finissent bien, bizarrement. Mais quand ça finit bien, c'est tout aussi drôle que quand ça finit mal, parce que lui, ce qu'il recherche, je pense, c'est l'inattendu, quoi. Il cherche à surprendre en permanence et ça marche, puisque dans ses BD, il y a toujours, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et tout ça, ça passe aussi par une sorte de dessin, c'est difficile à exprimer, mais une sorte de dessin un peu torché, un peu vite exécuté, quelque chose d'assez vivant comme ça, d'assez direct. C'est un dessin plutôt réaliste et ce dessin, finalement assez travaillé, même s'il est vite exécuté, il aide à rendre tout ça tangible. En fait, c'est-à-dire ces BD, elles sont réalistes, je dirais pas ça parce que le mot me paraîtrait complètement inapproprié, mais on est vraiment plongé dans l'univers grâce à ce dessin tout simple, même si ça reste un dessin noir et blanc à l'économie de moyens, tout de suite il nous plonge dans son univers, enfin je dis son univers ou ses univers, parce que ce qui est aussi marquant, c'est que chaque strip est un univers, on redémarre à zéro à chaque fois, quoi. Il n'y a jamais de personnages récurrents, c'est toujours des gens, alors souvent des losers, il s'amuse beaucoup avec des losers qui va s'amuser à maltraiter, parce que faut dire qu'il adore les situations malsaines, les situations où des gens se font humilier, enfin, c'est quelque chose dont il tire parti, parce qu'il aime bien rire de tous les travers humains, évidemment. C'est un truc assez jouissif, même on peut dire, dans ses bandes dessinées. Là, on parle de Grotesque 2, hein, mais on aurait pu parler de Texas aussi, qui est une autre série chez un autre éditeur. Grotesque 2, c'est un peu le prétexte pour parler de ses auteurs, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, il est un peu partout. Il est dans la presse, il est sur Internet, il a un blog, il sort des bouquins. Enfin, je vous conseille en tout cas d'aller voir son blog, d'acheter ses bouquins, tout ce qu'il fait est intéressant. Et même s'il est partout, moi qui suis spécialiste en BD, je le vois partout, je m'en lasse pas. Il y a ce bouquin-là qui est très bien, qui est pas cher en plus, donc c'est Grotesque 2 aux éditions même pas mal. Voilà, Olivier Texier. Et sinon, il y a son blog, donc c'est otexier, T-E-X-I-E-R, .blogspot.fr.
On écoutait donc Yacine qui nous parlait de l'album Grotesque d'Olivier Texier. Et ce soir, on était en compagnie de Julien. Merci beaucoup, Julien.
Merci beaucoup.
D'être venu nous parler de ton site Melianor. Mais à côté de ça, tu as d'autres activités littéraires ou du moins journalistiques?
L'écriture ne s'arrête jamais. Du coup, quand j'écris pas, on écrit toujours un petit peu. Et j'ai la chance
t'écris
d'écrire.
Même aux toilettes.
Même partout, mais ça, il faut pas trop le dire. Non, j'écris pour un site d'actualité qui s'appelle J'aime pas l'actu, que je vous invite à aller voir, où en fait l'objectif c'est d'amener l'information d'une manière un peu différente, un petit peu ludique par rapport à tous les médias qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'informations et c'est vraiment très très sympa.
Nous étions donc en immersion dans ton monde merveilleux, fantastique, fantaisiste de Melianor, que vous pouvez retrouver, chers auditeurs et auditrices, sur le site www.melianor.com. Merci beaucoup, Julien.
Merci beaucoup.
Dans deux semaines, la bouquinerie laisse la place à Brouillage, le festival à voir et à écouter, dédié à la création radiophonique, oui c'est ce qu'on fait, que Radio Campus Paris organise avec le théâtre de la Loge. Merci beaucoup Simon.
Merci à toi.
D'être là ce soir et de nous avoir fait découvrir en fait Melianor également.
Ouais, oui, hein, comme quoi
il faut le dire,
tous les chemins viennent à Rome, maître César.
Exactement.
Radio Campus Paris regorge d'artistes en tout genre. Merci à Yacine, merci à Lorna, à la réalisation. On lui fait coucou.
Coucou Lorna.
Et restez à l'écoute, parce que tout de suite, c'est le BRTZ Radio Show, et c'est très chouette.